sleeping. Humpy Gussie was creeping as I lay there weeping for my girl Sal. And the old triangle went jingle, jangle all along the banks of the Royal Canal. Up in the female prison, there's 75 women, and among them I wish I did dwell. Then the old triangle could go jingle, jangle all along the banks of the Royal Canal. All along the banks of the Royal Canal.
Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Villefort pour la 5e édition de la journée avec le Parc National. Je suis donc en compagnie de Ben. Bonjour Ben.
Bonjour Natacha, bonjour tout le monde.
Et je suis donc en compagnie du maire, monsieur Jean-Claude Bajac-Lehuantou, maire de Villefort, qui nous accueille ici pour ce plateau dans la mairie. Merci de nous accueillir. Et donc en compagnie de Anne Legille, qui est directrice du Parc National. Donc bonjour.
Bonjour.
Monsieur le maire, tout d'abord, pourquoi Villefort a souhaité accueillir cette 5e édition de la journée avec le parc ?
Pourquoi pas ? Nous avons de très bonnes relations avec le parc. On a surtout une personne, Stéphane Garnier, avec qui nous avons de très bonnes relations. Nous avons fait le projet des mélifères, entre autres. Voilà. Et puis, on s'était dit, tiens, pourquoi pas le faire à Villefort ? On est preneurs.
Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots votre commune ?
Alors, Villefort, c'est une commune de 620 habitants environ, donc située à 600 mètres d'altitude. Nous sommes à Porte des Cévennes, nous sommes au sud-est du département de la Lozère, limitrophe avec le Gard et l'Ardèche. Nous sommes station verte de vacances, avec un magnifique plan d'eau, donc avec un pavillon bleu. Nous sommes traversés par le chemin de la Rigordane, qui relie au nord le Puy, au sud Saint-Gilles, où c'était à l'époque c'était un itinéraire d'échange et de partage, de commerce, etc. Que dire d'autre sur notre bourgade ? Villefort, c'est un ancien chef-lieu de canton. Nous avons une gare, la ligne SNCF, le Cévenol, qui relie Nîmes à Clermont. Voilà. Et puis tous les services, pratiquement, mais qui rendent aussi service à tous les hameaux et les villages aux alentours. Nous sommes le centre-bourg, on va dire, ou le bourg-centre, comme on veut, puisqu'on a aussi on a contracté ce dossier bourg-centre, voilà, avec le concours du Parc National également, voilà, pour être aidé sur différents projets, différents travaux. Donc aujourd'hui, nous avons trois projets. Un projet qui est en phase de réalisation, c'était la réfection de l'avenue de la gare. Voilà, les finitions vont se terminer là au mi-octobre, je pense. Ensuite, nous avons la dernière tranche de l'assainissement, qui est un gros projet, donc qui va partir de la rue de l'Église jusqu'à l'avenue de la gare, donc gros chantier. Après, nous avons aussi la réfection et l'agrandissement de la salle polyvalente où nous serons ce soir. Voilà, ce sont des projets. Alors, ces deux sont en cours, hein, et le troisième est dans les cartons, on va dire. Voilà. On souhaiterait, avant la fin de ce mandat, voilà, avoir accompli au moins ces trois gros projets. Il y en a d'autres. Hein. Voilà, on a isolé toute notre école, isolation, changement de moyens de chauffage, isolation extérieure. La cour de l'école, voilà, on a remis une structure pyramide en corde, voilà.
C'est combien d'élèves à l'école ?
Alors, moi, j'ai toujours, habitude de rappeler qu'en 2014, où j'ai été là pour mon premier mandat, je ne suis pas maire depuis. Hein. J'étais deuxième adjoint. Voilà, à l'époque. Donc, nous avions à l'école 43 élèves. Aujourd'hui, à la rentrée, nous en avions 79. Voilà. Et il y en a 5, 6 qui doivent rentrer en cours d'année. C'est la raison pour laquelle j'ai été invité par le directeur académique, je peux le dire, cette semaine pour justement parler de notre école et du fait que voilà, la mairie, la commune, on était vraiment absolument derrière, hein, pour le bien de tous nos enfants et puis des familles qui puissent s'installer aussi. Donc, pour aller essayer de réclamer un renfort, sinon une ouverture d'une classe supplémentaire. Voilà.
Je t'en prie. Juste pour terminer là-dessus, ça veut dire que Villefort accueille de nouveaux habitants ?
Alors, on accueille de nouveaux habitants, oui, non. Vous savez, Villefort, c'est 7 km carrés. Donc on a on est très restreint en foncier, donc c'est compliqué d'ouvrir à la construction. Par contre, voilà, il y a des maisons secondaires, des maisons inhabitées, des etc. Donc qu'on essaie de peut-être pousser à la vente ou voilà. Mais enfin, il y a quand même pas mal de familles qui viennent s'installer quand même.
Voilà. Je veux savoir, on est dans le cadre d'une journée avec le parc. Quel lien vous entretenez, quel lien entretient la commune avec le parc national et concrètement, comment ça se passe un peu ?
Alors nous, on est à la limite du parc.
Derrière, on tombe.
On n'est pas au cœur du parc. Voilà. Donc on a de très bonnes relations. Par contre, on n'est pas, on va dire, concerné par le cœur du parc. Voilà, on est juste à la limite, mais tout ce qui est, si on peut, ce sont des thèmes ou des, comment dire, à venir, la biodiversité, etc., le climat actuel, le réchauffement climatique, etc. Donc on a des conseils sur peut-être la végétalisation, etc. D'ailleurs, on a un projet justement pour notre place du Bosquet, pour une étude et une réflexion, voilà, avec le concours du parc justement pour savoir comment on peut revoir et réaménager notre place du Bosquet.
Alors justement, Anne, ici on est à Villefort. Et ces journées avec le parc, hein, l'idée c'est quand même d'arriver dans quelque chose qui est du partage, parler du parc passé et comprendre aussi les choses que vous faites en fait concrètement. Pourquoi avoir choisi Villefort justement cette année ?
Mais en fait, ces journées avec le parc, elles existent depuis 5 ans et on essaye en fait d'aller chaque année dans ce qu'on appelle nous un massif. On a découpé administrativement le parc en massif. Donc la première journée a eu lieu à Sandras, à côté d'Alès. On en a fait à Saint-Enémy. Alors il y en a une qu'on a faite à moitié sur les contreforts sud de l'Aigoual parce qu'on a été victime d'un épisode Cévenol. Enfin voilà. Donc on essaye chaque année, quand on peut les organiser, d'aller dans un massif différent. Et le but, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens sur le terrain, des habitants de ce parc, du territoire. Et c'est pour ça qu'on fait justement cette journée, non pas en plein été, c'est pas une journée qui est destinée aux touristes. S'il y a des touristes qui sont là, on sera ravis. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller à la rencontre des habitants du territoire. Et comme l'a dit monsieur le maire, Villefort, c'est un petit peu excentré par rapport au cœur, entre guillemets, du parc. Mais nous, on est très heureux d'être là aujourd'hui pour dire, ben voilà, nous sommes aux côtés de toutes les communes du parc, y compris celles qui sont les plus éloignées de Florac. Et on est ravis d'être là aujourd'hui.
Et donc, ça commence donc, d'ici quelques minutes, hein, à 14h. Donc, il y aura des ateliers, des balades. L'idée, c'est vraiment de présenter les missions du parc, les actions à travers bah, voilà, des petits ateliers, des balades. C'est de donner à voir un peu les actions du parc. Elles sont encore pas très connu pour un certain nombre de personnes.
Bah, vous le savez très bien, on a beaucoup d'idées sur le parc. Hein. alors, souvent des idées qui sont erronées, qui ne sont pas forcément étayées. Mais ce qu'on fait réellement, effectivement, c'est encore assez mal connu. Et ça, on a pu s'en rendre compte lorsqu'on a fêté nos 50 ans, en 2020, où on a fait un gros travail, y compris avec Radio Bartas, hein, pour justement expliquer quelles étaient les missions et les actions du parc. Ce qu'on a dans l'imaginaire collectif, c'est le parc qui met une réglementation pour protéger le cœur de parc, la faune, la flore. On connaît l'expertise du parc sur ces sujets naturalistes, mais ce que vient d'évoquer monsieur le maire, notamment l'accompagnement des communes du parc pour les aider dans le réaménagement de leur bourg-centre, pour les aider à aller chercher des financements, parce que derrière la démarche bourg-centre, il y a des financements. Donc tout ce qu'on appelle, avec des gros mots, entre guillemets, ingénierie technique et financière, ben ça, c'est l'apport du parc aux communes. Et donc, monsieur le maire évoquait Stéphane Garnier, notre collègue qui est délégué territorial. Et en fait, les délégués territoriaux, leur mission, c'est ça, c'est d'être les interlocuteurs des communes pour les aider dans la mise en œuvre de leurs projets, pour concourir aux objectifs de notre charte. Hein. Je le rappelle, la charte qui a été élaborée en 2013 avec l'ensemble des acteurs de ce territoire, que ce soit les élus, les acteurs socioprofessionnels, les habitants, et qui définit ce que l'on veut pour notre territoire dans les 15 ans à venir, enfin depuis 2013, donc jusqu'en 2028.
Voilà, c'est ça, elle va changer en fait cette charte-là, ça y est, on y arrive tout doucement.
Alors on y arrive tout doucement, on est en phase d'évaluation à mi-parcours, même si on a dépassé le mi-parcours, donc c'est un moment qui est intéressant, et effectivement, conviendra de se poser la question de ce qui est nécessaire de faire évoluer. C'est vrai que, par exemple, la question des changements globaux, notamment des changements climatiques, elle était peut-être pas aussi, visible, prégnante en 2013 qu'aujourd'hui. Et donc, c'est des choses dont il va falloir se saisir pour peut-être envisager des évolutions. Mais sincèrement, il y a eu un travail énorme qui a été fait et dans les grands axes, je pense qu'ils sont toujours d'actualité.
Ça fait quelques années maintenant que vous travaillez au parc. Est-ce que vous avez senti le changement du regard des gens, en fait, justement sur les a priori dont vous parlez? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait tilt en disant « Ah oui, le parc, c'est important pour ça, pour ça ». Est-ce que concrètement, vous l'avez vu?
Alors concrètement, je l'ai entendu, je l'ai vu, parce que je me rappelle en 2019, par exemple, il y a eu des annonces du ministère disant qu'on allait réduire les moyens du parc national. Et moi, vous le savez, je vis à Florac, donc je suis interpellée quand je vais faire mes courses. Et les gens me disaient, mais Anne, le parc là, vous n'allez pas partir, ça, le parc va rester. Et donc, autant on peut critiquer le parc sur un certain nombre de façon de faire, de posture, etc. Mais quand le parc est en danger, là, on sent bien que les gens y sont attachés. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que on entend toujours, c'est très français, on entend les gens qui râlent. Et on n'entend pas souvent les gens qui sont positifs. Hier, j'entendais une interview sur France Inter d'un écrivain d'origine syrienne qui est devenu français. Et il disait, en fait, en France, on se focalise sur ce qu'on n'a pas. On devrait davantage se focaliser sur ce qu'on a. Et quand on vient de Syrie, et qu'on est en France, on se rend compte qu'on a le droit de manifester, qu'on a une sécurité sociale, qu'on a une éducation. Vous parlez de l'école, y compris dans des petits villages. On n'est pas obligé de faire des kilomètres à pied. Moi, j'ai vécu en Afrique, je sais ce que c'est que voilà, des enfants qui font 15 kilomètres à pied pour aller à l'école. Donc, en fait, on regarde souvent le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Mais pour autant, donc je reviens, pardon pour cette digression, je suis une bavarde, hein, vous me connaissez. On a fait faire donc récemment, au printemps dernier, une grande enquête. Alors certains vont dire qu'on se prend pour l'Élysée, mais on a fait faire une enquête auprès des habitants du territoire pour connaître leur perception du parc et de son action. Et ça nous semblait important parce qu'on était persuadés que encore une fois, la grande majorité qui est soit neutre, soit positive vis-à-vis du parc ne s'exprimait pas. Et là, les résultats sont édifiants. Plus de 80% des personnes interrogées, donc c'est quand même 867 personnes hein, qui ont été interrogées sur l'ensemble du territoire du parc, trouvent que c'est une chance de vivre dans un territoire préservé, que nos agents ont de grandes compétences, que l'établissement public est efficace dans ses missions. Donc voilà, c'est ça la réalité du territoire. Donc il faut dépasser parfois les gens qui parlent fort, et souvent les gens qui parlent fort, c'est pour critiquer.
Merci Anne Le Gilles, merci Jean-Claude Bajac Le Yantou. Excellent après-midi. J'imagine que vous allez profiter des ateliers et des balades.
Bien sûr, tout à fait. On va y aller de ce pas.
Et je rappelle que merci ce soir, donc à partir de 18h, il y aura un apéro-débat où vous serez présente à nos côtés du président.
Du président.
Hein, donc oui. Stéphane Morin, qui est aussi maire du Pont de Montvert. Donc si vous nous écoutez et que vous souhaitez venir, donc n'hésitez pas. Donc ce sera à partir de 18h à la salle polyvalente.
C'est ça, de l'Oustaou.
À l'Oustaou.
À l'Oustaou. Et l'idée, c'est justement dans le... Je me permets de rajouter deux minutes. Dans le sondage qu'on a fait, on a vu que les gens réclamaient un contact direct, une communication directe des agents du parc envers le territoire. Et donc, avec Stéphane Morin, le président, on veut initier un cycle de rencontres avec les habitants, où les habitants pourront venir nous poser toutes les questions qu'ils se posent sur le parc. Et donc, on inaugure cela ce soir à Villefort. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Merci.
Merci à vous. Someday, a white light will come for you to comfort you. Well, I'll put my shades on, shield my eyes. Yeah, that's what I'll do. And I'll face the light with you. Someday you'll get older, I'll be right behind you. New days, hard to show. Oh. Nous sommes de retour à Villefort donc pour la cinquième édition de la journée avec le Parc National. Donc après l'introduction que vous venez d'écouter donc avec Anne Legille, directrice du parc, et Jean-Claude Bajac, le Yantou, nous allons maintenant vous proposer trois plateaux de 15 minutes. Et donc nous allons parler tout de suite du patrimoine naturel et culturel de Villefort et plus généralement du Mont-Lozère. Donc pour ceci, je suis en compagnie de Manuel Jacquet, qui est accompagnateur en montagne, David Henbaugh, garde-moniteur au Parc national des Cévennes, et Morgane Roux, donc de l'Office de tourisme du Mont-Lozère. Donc déjà, tout d'abord, si on veut aborder le patrimoine naturel, Manuel, donc vous êtes accompagnateur donc au sein de À pas de loup. Vous proposez des randonnées nature toute l'année sur les secteurs notamment de Villefort, de Genolac, de Concoule, Ponteil et Brésis, pour observer la faune et la flore. Qu'est-ce qui vous a donné un peu envie de vous lancer là-dedans ? C'est depuis tout petit ou...
Bonjour. Du coup, comment je me suis lancé là-dedans ? Je pense que c'est en se retrouvant dans les Cévennes, tout simplement. Parce que au tout début, j'avais une formation de journaliste. Et dans les Cévennes, c'est pas toujours évident de trouver du travail là-dedans. Et petit à petit, je me suis dirigé vers ce qui m'attirait le plus, donc le côté de la randonnée et de tout le milieu naturel. Et en fait, c'est venu, on va dire, naturellement.
Donc vous proposez des randonnées. Quelles sont les randonnées que vous proposez ? Quelles sont celles qui sont prisées par les visiteurs ? Où est-ce que vous les emmenez ?
Alors j'ai plusieurs styles de sorties, j'ai des sorties de randonnée astronomie, donc où là je les emmène juste au-dessus de Villefort, sur le Cham des Balmelles, donc pour observer principalement le ciel, et pour pouvoir côtoyer un peu l'ambiance, on va dire, de nuit. Après j'ai des sorties donc sur la flore et sur la faune, et nouvellement cette année j'ai aussi une sortie... un escape game nature qui est là sur les thèmes naturalistes aussi, mais du coup qui attire un peu plus des gens qui n'ont pas forcément de veine là-dedans, mais qui les attire dans ce milieu-là.
Alors justement, un escape game nature, concrètement ça veut dire quoi, histoire qu'on essaye de se faire une petite image radiophonique de ce que ça peut être?
Alors le principe d'un escape game de base, c'est de s'échapper normalement.
Voilà, normalement, c'est pour ça.
Et d'être enfermé. Donc forcément, en pleine nature, ça marche pas trop. Mais on va dire que c'est plus sous forme d'enquête. Donc là, cette année, c'était un test donc, sur le thème de la bête du Gévaudan. Mmh. Donc le but, c'était une enquête sur cette bête et d'essayer de retracer en fait, son parcours, son histoire. Et on est arrivé grâce à des indices qui étaient posés... ça et là, et il fallait un peu tout assembler pour pouvoir continuer, trouver, et trouver finalement qui elle était.
Alors l'idée aussi, c'est peut-être de changer, je sais pas, des comportements ou des perceptions en fait de la nature. Est-ce que vous avez senti des évolutions ? Et la question vaut aussi pour vous, David. Est-ce que les comportements entre guillemets des touristes ont évolué en proposant ce genre d'activité ?
Déjà bonjour.
Bonjour.
Et à travers nos animations, eh ben, on l'espère. Sinon, c'est un peu difficile de répondre à cette question comme ça. Je ne sais pas vraiment si je peux répondre. Ceci dit, on sent vraiment, en règle générale, les gens, ils sont respectueux et ils sont attentifs.
Ils savent où ils sont, quoi.
D'un point de vue administratif, peut-être pas, mais oui, au niveau de la nature, ils savent qu'il faut pas faire de bruit, des choses comme ça. Mais il y a toujours quelques petits coquins, mais c'est pas dramatique, quoi.
Vous avez senti l'évolution ? C'est pareil, c'est compliqué de répondre, parce que finalement, tout le monde est respectueux ici en Cévennes.
Alors, d'évolution, pas forcément. Après, ce que je peux peut-être ajouter, c'est par exemple justement avec ces escape games, c'est qu'il y a des publics aussi différents en fait. Il y a ceux qui viennent pour des sorties vraiment naturalistes, donc qui ont déjà un peu une fibre là-dedans. Et là, ceux qui viennent pour ça, là c'est plus pour un jeu. Mais en fait, par le biais de ce jeu-là, ils voient qu'il y a quand même tout un truc naturel autour, qu'ils en ont conscience, c'est sûr, mais qu'ils connaissent peut-être pas forcément ou qu'ils effleurent et qu'ils voient qu'il y a quand même vachement plus de choses à découvrir et que c'est très large.
Pour les sorties naturalistes, qu'est-ce que vous aimez montrer, raconter aux randonneurs que vous accompagnez? Est-ce qu'il y a une saison qui est plus propice à cela?
Alors, dans les Cévennes, j'ai envie de dire la saison propice, c'est quand même l'été, parce que l'hiver, c'est quand même assez désertique.
Le printemps?
Au printemps aussi, oui, mais bon, c'est vrai que principalement, c'est quand même l'été. L'automne aussi, parce que les champignons attirent beaucoup de monde. Le brame du cerf aussi. Et puis c'est une saison aussi qui est quand même très belle visuellement. Mais je ne me rappelle plus le début de la question.
Qu'est-ce que vous aimez montrer, raconter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur quand vous accompagnez les personnes? Qu'est-ce que vous aimez leur montrer? Enfin, les traces, écouter les chants, enfin, qu'est-ce qui...
Non, alors ce que j'aime beaucoup, c'est leur faire découvrir le ciel. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont peu l'habitude de voir. Parce que la plupart des touristes qui viennent de grandes villes, de Paris, de Lyon, ou même plus haut vers la Belgique, et c'est que des secteurs en fait, où on ne voit plus du tout le ciel. Et il y en a beaucoup qui disent « je me rappelle étant petit, je voyais un ciel qui était magnifique, où il y avait la Voie lactée, et ils ne savent même plus vraiment ce que c'est. » Et le fait de le redécouvrir ici, c'est assez beau de voir, et de les accompagner... à leur faire redécouvrir ça.
David, je vois l'écusson police de l'environnement sur votre
c'est pour
pull.
Moi.
Pour le coup. Alors, concrètement, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, il y a des policiers de l'environnement au Parc national des Cévennes. Hein, vous n'êtes pas le seul. Concrètement, c'est quoi votre travail et pourquoi la police?
Alors, mon travail, précisément au niveau de la police ou en général?
En général, et puis après, on pourra peut-être digresser sur pourquoi vous êtes policier.
Alors, moi, je suis ce qu'on appelle un garde-moniteur. Et quand on décompose l'adjectif garde, ça veut dire faire respecter une certaine réglementation, et notamment la réglementation du cœur du parc. Mmh. En règle générale, c'est chasse, pêche et... tout ce qui est relatif aux usagers, la circulation, des choses comme ça, la cueillette. Et nous, on est là pour faire respecter toutes les règles du cœur. Je ne sais pas si je suis assez précis.
Je pense que c'est très clair. Ça veut dire que vous pouvez verbaliser aussi si jamais quelqu'un sort des sentiers battus?
Oui, enfin, ça c'est une image, mais oui, on peut verbaliser. Je ne sais pas, pour... le chien non tenu en laisse, la circulation, c'est des choses qui sont le plus récurrent. Mmh. Le fait qu'en cœur de parc, le bivouac n'est pas autorisé, sauf dans certaines conditions, et ben voilà, c'est des choses qui sont récurrentes. On a aussi le feu, mais le feu, c'est au niveau national, donc ça s'applique partout, mais le cœur n'est pas... Enfin, il est toujours... comment on peut dire ça les touristes, les usagers, ils sont là aussi, et, sans savoir s'ils sont en cœur. Et allez, boum, un petit feu par-ci, par-là, c'est... ça se passe, ça se fait quoi.
Donc l'une des missions aussi hein, des gardes-moniteurs, c'est d'effectuer du suivi hein, d'espèces, d'améliorer les connaissances sur la faune, la flore. Alors, sur le secteur de Villefort et plus généralement sur le Mont-Lozère, quelles sont ces espèces que l'équipe du Mont-Lozère suit?
On a pas mal de choses. On a pas mal de choses et en fait, le parc national des Cévennes se répartit en quatre massifs. Nous, on est sur le massif du Mont-Lozère et on a des groupes thématiques que chaque agence... avec ses affinités naturalistes s'implique à l'intérieur de ces groupes. Et je peux donner quelques exemples. Le groupe rapace, groupe odonate, groupe orthoptère, c'est les criquets, sauterelles, etc., papillons. Voilà. Et à partir de là, eh bien, on fait des petits suivis, des protocoles. Et au niveau du massif, c'est plus précisément le... Les orthoptères, ça marche bien. Les rapaces, les oiseaux, on fait quelques par exemple, là, tous les 15 ans, on fait un suivi de la faune, enfin, l'avifaune commune.
quelques exemples pour que ça parle. Donc,
exemple d'espèces.
Oui, tout à fait, oui.
Eh ben, on a l'aigle royal, pour le plus connu chez les oiseaux. Et après, c'est tous les petits oiseaux, les rapaces en général. Et ensuite, on peut se tourner sur la flore, sur des plantes remarquables qu'on soit endémiques, soit qui sont vraiment à forte responsabilité au niveau du parc, au niveau national. Et là, on essaye de les repérer, de cartographier, de connaître leur dynamique et population. Et voilà. Quelques exemples de plantes, alors.
Rapidement.
Mais l'arnica, pour le plus connu, parce qu'on a des stations sur le Mont Lozère qui sont vraiment importantes au niveau du Massif central. Et comme la cueillette en cœur de parc est réglementée, et ben voilà, on suit ces populations et on suit les cueillettes et voilà, sur l'arnica, la gentiane.
Très bien. Merci David. Sur le volet culturel, Morgane, si vous deviez nous envoyer une petite carte postale de Villefort, quel patrimoine pourrait figurer sur cette carte postale ?
Bonjour. Alors, Villefort, on a la chance d'avoir un patrimoine bâti qui est assez riche, puisqu'on est ici sur l'ancien chemin de Régordane. Comme le disait le maire tout à l'heure, voilà, c'était un ancien chemin de communication et de pèlerinage entre le Puy-en-Velay et Saint-Gilles. Donc, on a vraiment un patrimoine typique bâti sur ce chemin de Régordane, avec dans Villefort les ouvertures à doubles arches. On a des linteaux gravés. Et puis, voilà, quand on passe par l'ancienne rue de l'église ou rue de la Bourgade, on a vraiment ce patrimoine et la trace de la vie et du passage qu'il pouvait y avoir sur ce chemin qui était très emprunté, hein, surtout au XIIe siècle, pour le commerce, donc pour le pèlerinage, beaucoup de muletiers, beaucoup de pèlerins. Tout ça, ça a laissé des traces, forcément, sur le bâti. Et d'ailleurs, on a la chance à Villefort d'avoir un des sentiers de découverte du parc national des Cévennes, un sentier de découverte donc du patrimoine bâti, de l'histoire de Villefort. Alors, en lien avec le chemin de Régordane, mais aussi un petit peu plus récent, sur la châtaigne, la culture de la châtaigne, puisqu'on en a ici et on en a encore aujourd'hui. Hein, la châtaigne continue à être cultivée. Sur l'arrivée du train, par exemple, puisque Villefort est une des premières bourgades qui a été desservie par le train en Lozère, sur la ligne Nîmes-Clermont-Ferrand, la ligne du Cévenol. On a la chance d'avoir une gare à Villefort, donc pour l'accès, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis au niveau touristique, on a l'avantage, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir un lac qui est donc un lac artificiel, mais qui a apporté un renouveau finalement dans les années 60 au moment de sa mise en eau, et qui aujourd'hui permet d'avoir beaucoup d'activités nature, vraiment autour des activités de pleine nature autour du lac.
Et on en parlait juste avant de rentrer sur ce plateau, aussi un fort et un beau bassin associatif.
Oui.
C'est-à-dire que c'est une ville qui vit alors que finalement il y a 600 habitants.
C'est ça, à l'année on a 600 habitants, 620, mais il y a toujours une activité et ça toute l'année. Alors sur Villefort, mais sur les communes alentours, même sur tout le Mont-Lozère, la communauté de communes du Mont-Lozère, on a la chance d'avoir des associations qui sont très actives. On a des foyers ruraux, on a des comités des fêtes, on a des associations voilà, sur des thèmes musicaux, sur des thèmes sociaux, qui nous propose des activités vraiment toute l'année, pas que l'été. On a là, par exemple, pour l'automne, pas mal d'activités, d'animations qui vont avoir lieu. Alors on a justement avec les foyers ruraux, les associations, des animations hebdomadaires d'activités sportives, parce que ben on se bouge. Voilà, et on a justement beaucoup d'activités sportives, hein, qui sont proposées sur tout le territoire. Et puis on a Octobre Rose, hein, qui arrive avec donc des animations qui sont prévues sur Villefort ou par exemple le 7 octobre à la Bastide Puy-Laurent, des randonnées autour du vélo ou randonnées pédestres. Et puis pour dans le cadre du jour de la nuit aussi, le 14 octobre, il y a aussi une participation financière à Octobre Rose, une journée organisée par la mairie de Villefort avec l'association Fuchs et Venol autour des bruits de la nuit et avec voilà, des animations sonores autour de ce thème-là. Voilà, on a le marché du terroir aussi à Villefort qui aura lieu le 22 octobre, les castagnades le 28 octobre à Prévenchères, donc des choses assez traditionnelles en fait, des animations qui se conservent, des traditions qui continuent, qui perdurent. Et puis le Rue de Boycrou sur le secteur autour du Mont-Lozère qui propose beaucoup d'activités, de spectacles en fait, autour du théâtre, voilà, qui sont accessibles à tous.
Merci. Donc cet après-midi, Morgane, tu seras donc à l'office de tourisme, Manuel au sein de la maison éphémère, et donc David proposera deux balades dans les jardins des particuliers pour voir un peu comment ils aménagent pour favoriser la biodiversité. Donc il reste encore des places, donc si vous nous écoutez, que vous souhaitez venir, il y a encore de la place, n'hésitez pas. Merci.
Merci. Manqué,
pourquoi tu me visais ? Tous nos échanges coulaient de source, tous nos mélanges cotés en bourse. Tout est brutal, beauté en touche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Je t'ai manqué. Pourquoi tu me visais? Tout est extrême, limite et cône glacée. Tout est idem, les vitrines, les pôles opposés. Dans les étoiles ou sous la douche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Pourquoi tu me disais? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait rien, si l'on construisait les phrases à l'envers, ou si l'on soulevait de main, qui serait l'adversaire entre nous, qui serait le plus malin? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait plus rien, je t'ai manqué, pourquoi tu me visais? Brutale beauté en touche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Si l'on suivait les voies ferroviaires, qui aurait le pied marin? Si l'on sifflait les fonds de théière, ou si l'on ne sifflait plus, qui serait l'adversaire entre nous, qui serait le plus malin? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne se disait plus rien?
Nous sommes de retour à Villefort pour la 5e édition donc de la journée avec le parc. Je suis toujours en compagnie de Ben.
Ouais, vous l'avez entendu, il est arrivé. Hein.
Et donc, je suis en compagnie d'Éric Dessauliers, donc, qui est chef du service paysage-urbanisme au Parc national des Cévennes, et donc de Maxime Banastier et Pierrot Leclerc, donc, qui sont tous les deux artisans membres des ABPS, artisans bâtisseurs en pierre sèche, donc au Chambon et à Ventalon. Nous allons donc parler des paysages façonnés par l'homme. Donc tous les deux, vous allez intervenir bientôt là pour sur un mur en pierre sèche.
Oui. Alors on va faire une reprise de brèche. Non, je suis là.
Vas-y, on est avec toi.
Ok, cool. Le mur s'est effondré au fil des années. Forcément, l'effet du colmatage a eu raison de lui. nous allons essayer de le reprendre et conforter au mieux cette zone pour redonner vie à ce début de chemin.
Pour montrer aux différents publics la pierre sèche, le savoir-faire de la pierre sèche, rapidement, en 2 heures, on va sensibiliser, poser quelques pierres et essayer d'expliquer la manière de faire, quoi.
Voilà. Ce qui m'étonne tous les deux, c'est que vous êtes super jeunes. Voilà. Et comment vous y êtes arrivé à la pierre sèche parce que c'est un savoir quand même ancestral. Qu'est-ce qui vous a mis les mains dedans, finalement?
Complètement par hasard. Je n'ai jamais eu conscience du patrimoine bâti autour de moi jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre des ABPS qui m'ont ouvert les yeux et passionné. Mmh. Voilà. Quand on vient dans le caillou, c'est quand on aime ça. Mmh.
Maxime, pareil, les ABPS aussi, c'est...
C'était moi, Maxime.
C'est toi, Maxime. Ouais, bah, je l'ai noté, en plus, tout va bien. Pierrot, pardon.
Moi, j'ai toujours fait un peu de pierre avec mes parents depuis ado, quoi. Même peut-être gamin, un petit peu. Et après, je n'avais plus envie de faire des études. Je sais qu'il y avait cette formation à côté. Je commençais à bien aimer déjà la pierre. Et donc, j'ai fait ça et j'en suis jamais sorti. Quoi. Voilà.
Est-ce que c'est propre à la Lozère, la pierre sèche?
Non, c'est national. La pierre sèche, elle est mondiale même. Elle est partout, à des endroits plus qu'à d'autres. Mais voilà.
C'est un savoir-faire international, en fait. Mmh. Partout dans le monde, là où il y a eu de la pente... Là où il y a eu des sociétés humaines qui s'installent, des sociétés paysannes, et ben ils ont façonné les pentes avec des terrasses, en fait, pour pouvoir libérer de l'espace, de la terre, pour cultiver un lopin, des céréales, du riz. Hein, on connaît les terrasses en Asie. Ceux qui connaissent le Machu Picchu, voilà, ils voient des terrasses en pierre sèche. Ben, dans les Cévennes, c'est pareil. C'est une civilisation paysanne, une société paysanne qui a construit ces paysages. Et ce que je voulais juste rebondir sur... Tu disais que nos deux collègues bâtisseurs, là, étaient jeunes. C'est un métier d'avenir. C'est un métier qui a un avenir, qui est toujours d'actualité, en fait. C'est certes ancestral, mais c'est d'actualité.
Ça veut dire que vous avez des chantiers toute l'année. Quand on est artisan bâtisseur en pierre sèche, on arrive à vivre de son métier toute l'année?
Oui, on peut vivre de son métier toute l'année. C'est des choix, mais... On peut avoir des chantiers toute l'année et en vivre. Ouais.
Et justement, vous intervenez, c'est quoi l'essentiel de vos commandes? C'est pour intervenir sur quoi? Éric parlait des murs en terrasse, mais bon, il y a peut-être, les usages sont peut-être multiples. Enfin, sur quoi vous intervenez?
Alors, le plus souvent, c'est des murs de soutènement qui sont là pour retenir les terres. Alors, la terre, c'est ce qu'il y avait de plus précieux en Cévennes. Il fallait bien manger. Maintenant, alors, c'est une conclusion que j'ai faite, c'est que les plus beaux murs, on les fait en général autour des maisons, là où ça se voit, là où on va créer des paysages, des petites jardinières, du potager, et on délaisse tous ces murs qui sont dans la montagne et qui justement étaient là pour retenir les terres et limiter l'érosion de nos sols.
Comment faire pour que ce savoir perdure ? Est-ce que vous allez faire de la prospection?
Il faut continuer à former des gens, à faire des journées comme ça de sensibilisation.
C'est accessible à tout le monde? C'est-à-dire que, bon, moi je suis pas très costaud.
Ah oui, c'est accessible à tout le monde à partir de 16 ans ou 18 ans. C'est accessible à tout le monde, à tout âge. Des formations courtes, des formations longues, professionnalisantes ou pas. Si on a envie juste d'apprendre pour faire chez soi, c'est possible aussi, avec différents modules. Voilà.
Pour faire perdurer ce savoir-faire, c'est une très bonne question. Bah, on crée une école. On crée une école, et le Parc National des Cévennes, avec les artisans bâtisseurs en pierre sèche, ils ont créé cette école, ils ont créé l'association en 2002, et puis l'école est arrivée très rapidement. C'était un des enjeux majeurs des ABPS et du PNC, c'est de former les jeunes, bien évidemment, parce que si on perd le savoir-faire, ben on sait plus reconstruire, on sait plus réparer les brèches. Voilà, on est dans une logique de réparation aujourd'hui, souvent. Tu questionnais, Maxime, sur les ouvrages sur lesquels vous intervenez. C'est souvent de la réparation.
Alors, justement, on va essayer de faire une image radiophonique de ce que c'est monter un mur en pierre sèche, hein, si ça peut intéresser les auditeurs, auditrices de venir.
Challenge.
Concrètement, comment ça se passe? Comment on pose la première pierre?
Ah ben déjà, avant de poser la première pierre, il faut préparer les fouilles. Si le mur est effondré, ben, il faut trier toutes ces pierres qui sont emmêlées dans de la terre, des racines. Et on creuse, on trie, on met les belles d'un côté, les moins belles de l'autre, les grosses, on en garde pour les fondations et pour le couronnement. C'est ce qui vient fermer le mur, c'est des pierres les plus importantes. Les petites, on les garde aussi pour remplir tous ces petits interstices qu'on va laisser. C'est toute une organisation et un travail très physique avant de poser la première pierre.
Et ensuite, donc, une fois que tout ça sont faits, finalement, les fondations, etc., est-ce qu'une pierre, comme tu l'as dit, un peu usagée, elle se retaille ?
Une pierre, certaines pierres se taillent, d'autres non. Alors on essaye de les bricoler, entre guillemets, au mieux pour les adapter. Mais l'intérêt, c'est de moins travailler la pierre possible. Ça demande moins d'efforts, parce que déjà, on bouge pas mal de tonnes quand on fait le calcul. Alors, si la pierre, on la tourne 4 fois avant de la poser, ça demande encore plus d'efforts. Alors, il y a un vrai travail de l'œil qui se fait, et ça, c'est de la pratique, et uniquement de la pratique.
Est-ce que c'est sans liant, hein ?
Toujours sans liant.
C'est un principe, c'est le premier principe.
Est-ce que toi, Pierrot, par exemple, c'est l'œuvre, entre guillemets, ce sont des œuvres, hein, on peut le dire, à laquelle tu as été le plus fier de participer, c'était quoi ?
Je sais pas, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a eu un super escalier en pierre sèche à l'extérieur pour accéder à une porte qui était dans le vide avant. Et il devait y avoir un escalier en bois à l'époque, ou je sais pas, donc un escalier car tournant pour monter un étage super joli, et des murs arrondis, des choses en hauteur, vraiment sur des rochers vraiment majestueux, ouais, différentes choses. Ouais. Ouais,
finalement, c'est ça, c'est à chaque fois qu'un ouvrage est fini, on se dit waouh, ça y est, on l'a fait, quoi.
Je voulais dire aussi, il y a quelque chose de spectaculaire dans un chantier pierre sèche. Moi, je dis que c'est spectaculaire parce que, vous voyez, ce matin, on est allé voir le site où on va animer et réaliser cet atelier tout à l'heure à Villefort. Et en fait, Pierre et Maxime, ils n'ont pas besoin d'accès véhicule parce qu'on n'amène pas de bétonnière, on n'amène pas de sable, on n'amène pas d'eau, on n'amène pas de ciment. Il faut juste un tas de cailloux, effectivement, un tri. Il y a ce travail préalable dont Maxime parlait. Et puis, des outils. Oui. C'est tout. Et en fait, c'est spectaculaire parce que bâtir un ouvrage, un mur, avec des outils...
Rudimentaires,
en plus, ancestraux pour le coup. Mm. Voilà, quelque chose qui est toujours utile, fonctionnel, qui a un sens aujourd'hui. C'est ça qui est le côté un peu magique de ce savoir-faire.
C'est que du recyclage, quoi, en fait. C'est que le mur, il tombe, on arrive à le remonter, pas totalement, parce qu'on n'a jamais assez de pierre avec ce qui est tombé. On dit à peu près un tiers, on va récupérer, et encore, ça dépend de la qualité de la pierre. Donc on a quand même besoin d'un peu d'accès pour amener des pierres. C'est quand même galère, mais voilà, oui, c'est une des choses faciles, quoi, quand même. C'est qu'on arrive à utiliser ce qu'il y a sur place au maximum.
Maxime ?
Mur en pierre sèche, ça demande pas énormément de moyens techniques et motorisés. On a nos quatre outils, du courage, de la volonté, et on le fait. On y arrive.
Donc vous proposez cette petite démonstration d'ici quelques minutes, toi et Eric. Donc ce sera une balade pour aller faire une lecture de paysages. Alors comment on pourrait qualifier les paysages de Villefort ? Tu vas aller où ?
On verra comment on va le qualifier, parce que l'objectif là, c'est de faire une balade avec les gens, avec les habitants qui sont inscrits, les habitantes. Et puis c'est de déterminer un petit peu ce qui constitue des paysages de leur village et de leur environnement, de leurs coteaux. Donc on va aller, justement, on va passer par le chantier Pierre Sèche, parce que quand même, c'est quelque chose à aller voir. Puis après, on va monter un petit peu plus, traverser une ancienne châtaigneraie, qui est aujourd'hui plantée de résineux, voir des anciens ouvrages Pierre Sèche, hein, qui est encore avec des tout petits modules de pierre, c'est assez intéressant, juste en haut, là. Et puis, il y a une ancienne clède. On a une vue, à un moment donné, sur le lac de Villefort. Voilà, l'objectif, c'est d'échanger, de partager ensemble sur ce qui constitue les paysages d'un village, en fait. C'est sur ce qu'on peut juger de bien, de moins bien. Moi, j'aime bien, en fait, ce qui nous intéresse au Parc national, c'est de partager les points de vue et d'établir une sorte de diagnostic, mais ensemble, pour pas que ce soit juste un point de vue, celui du parc, mais que ce soit quelque chose de collectif, de partagé. Donc là, c'est juste une balade, et puis on discute, on s'arrête, on fait des arrêts, puis on échange sur la valeur de nos paysages, sur le caractère de nos paysages.
Tu vas les faire dessiner ?
Non, pas ce coup-ci. Je ne vais pas les embêter. C'est vrai que... oui, tu as été témoin de ça. Ah. Oui, oui, régulièrement, je fais dessiner les gens. Mais là, non, ça s'y prête moins. Et on se donne un petit temps. Donc, c'est vraiment plus de l'échange direct.
Et plus sérieusement, est-ce que quand tu fais des balades, tu demandes de décrire un peu ce que les gens voient ? Notre perception diffère, n'est jamais la même, hein, en fonction de qui on est, de notre vécu. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déjà très surprise ou t'as été complètement abasourdi par la réponse de la personne qui ne voyait pas du tout la même chose que toi, tu pouvais voir ?
Ouais. Une fois, on regardait un paysage et on était dans les gorges du Tarn, sauf qu'on ne voyait pas la rivière. On était au-dessus, donc on ne voyait que les coteaux. On entendait un son. Et là, pour le coup, on a fait dessiner des enfants. Et il y a un des enfants qui m'a dessiné le paysage, il m'a dessiné une rivière. C'était génial. Ça voulait dire qu'en fait, il avait capté là où on était, ce qu'il y avait en bas. Bon, bien sûr, c'était entre guillemets facile, mais quand même, il a dessiné. Pour lui, dans son mental, c'était ça qu'il voyait, quoi. Alors qu'en fait, visuellement, elle était absente. Mais oui... Il y a toujours, alors je ne dis pas un étonnement immense, mais il y a toujours une surprise et parfois des belles surprises. Parce qu'en fonction, effectivement, du métier qu'on exerce, de la culture qu'on a, d'où on vient, de qui on est, on voit les choses différemment. Sur un coteau, peut-être tout à l'heure, on va regarder le coteau en face à Villefort. Certains ne voient qu'une forêt, d'autres vont voir les terrasses en pierre sèche qui sont derrière cette forêt. Ils vont voir parce que leur grand-père a eu des bêtes ou des céréales sur une terrasse, ils vont voir les choses forcément différemment de moi ou d'un autre habitant, et c'est ça qui est intéressant à partager.
Merci pour votre participation, et donc si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller voir donc Maxime et Pierrot, ou alors il reste encore des places pour la balade.
Oui, Eric. Il reste des places, donc rendez-vous 14h place du Bosquet
pour, à la maison éphémère.
À la maison éphémère pour la pierre sèche, et rendez-vous 16h pour la balade paysage.
C'est noté. Merci pour votre participation.
Merci à vous.
Merci à tous. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that.
watch them up and go. Oh, oh, ching, ching. Here come the hot step up. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still heavy like that.
Nous sommes de retour donc à la mairie de Villefort et nous allons parler maintenant de la production locale et de la marque Esprit Parc National. Donc avec Ben, nous sommes en compagnie de Catherine Delarue Ducamp, donc qui est co-gérante du comptoir de la Régordane, situé à Prévenchères, et également de la miellerie de Vielvic. Et donc avec également Arienta Robert, donc pour la ferme du Pouget. Hein, donc c'est une affaire familiale. Donc il y a à la fois une ferme et puis aussi des gîtes hein, qui sont marqués Esprit Parc National donc depuis 2020. Donc tout d'abord, Catherine, le comptoir de la Régordane, c'est à la fois une boutique de producteurs, mais c'est aussi un restaurant de terroir. Donc c'est une double casquette.
C'est ça. C'est un projet qui est né en 2011 avec les producteurs et les artisans locaux. On est d'abord parti sur statut associatif. On a ensuite monté ce qu'on appelle une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Le but de notre projet, c'était d'offrir un point de vente aux producteurs et aux artisans du territoire, sur notre territoire, à l'année, si possible. Et comme quand on a fait le recensement des producteurs, on avait pas mal d'éleveurs, on s'est dit il faut aussi qu'on puisse représenter ces éleveurs et donc pouvoir vendre de la viande. Et donc à notre projet de boutique, on a associé un projet de restauration du terroir, si vous voulez, à partir des produits qui sont disponibles dans la boutique et des viandes et fromages, truites, etc., dont on dispose sur le territoire.
Donc ça fonctionne comme un vrai restaurant avec du personnel tous les jours.
Oui, on est ouvert en 7/7 de juin jusqu'à fin septembre. On est quasiment ouvert à l'année puisqu'on ferme de la fin des vacances de Noël aux vacances de février et un petit peu en novembre, histoire que tout le monde puisse souffler. Et il n'y a pas quand même énormément de monde à cette époque-là sur notre territoire, donc nous aussi on souffle. Mais le lieu est ouvert toute l'année, c'est un lieu d'accueil où les gens qui sont sur la gare de Guérin peuvent venir boire un coup, manger un dessert, acheter quelques produits ou déjeuner à midi. On est ouvert uniquement à midi. Sauf au moment où on fait des soirées ou des événements.
C'est combien de couverts
Ça varie.
Au maximum
au maximum, on fait 65-70 couverts. Mais c'est très variable.
L'avantage aussi de travailler avec... est-ce que vous pensez qu'on en fait assez sur les produits locaux est-ce qu'on travaille assez avec ce genre de produits ou est-ce qu'on pourrait en faire plus?
Alors, on doit sans doute pouvoir en faire plus, mais c'est un vrai défi. Il y a une réflexion au niveau du département de la Lozère en ce moment avec le PAT, PAT. Ouais. Mais on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça. Travailler avec des produits locaux, c'est une grosse contrainte en termes d'approvisionnement et de disponibilité des produits. Et c'est ça le plus gros défi, et arriver à se faire livrer, parce qu'on est en Lozère. Et quand on veut faire venir des produits du COS à Villefort, qui est à l'autre bout, eh ben, c'est hyper difficile. Donc c'est ça les principales contraintes qu'il faut arriver à vaincre. Mais après, une fois qu'on arrive à avoir les produits, c'est juste magique parce que les clients sont hyper réceptifs, super contents de trouver des produits locaux, cuisinés, frais et disponibles dans les assiettes.
Et puis peut-être enlever...
Et puis l'idée de pouvoir aller prendre le produit dans la boutique après, quand on l'a mangé dans son assiette, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aussi.
C'est combien de producteurs qui alimentent la boutique et du coup le restaurant ?
On doit avoir, ça fait longtemps que je n'ai pas compté, mais on doit avoir plus d'une soixantaine de producteurs, une douzaine d'artisans. Et voilà, donc certains des producteurs n'apportent que à la restauration, mais il y en a aussi beaucoup qui ont la double casquette, quoi, qui nous apportent pour la boutique et dans lesquels on pioche pour produire nos repas.
Si j'ai bien compris, vous faites aussi la miellerie de Vielvic, hein, c'est ça hein.
C'est ma principale activité.
J'ai bien compris.
J'ai monté le comptoir avec d'autres agriculteurs dans un deuxième temps.
Donc vous venez...
Mais je suis associée à la miellerie de Vielvic, qui est une exploitation familiale qui a été créée juste après-guerre donc à Vielvic. Et je travaille donc à la miellerie avec mon époux.
Alors justement, un peu le bilan en ces temps où on entend pas mal de choses, c'est quoi un peu le bilan de la production de l'année ?
Alors cette année, ça dépend des coins de la Lozère, comme souvent.
Ouais.
Nous ici, sur Villefort, on va qualifier notre année, Villefort et le secteur est du Mont-Lozère, on va dire, c'est une année moyen plus, voilà. Une petite toute première récolte, quelques-uns ont fait de la bruyère blanche, mais pas énormément de personnes. Une récolte de châtaignier correcte, mais qui a été, on va dire, adoucie par la floraison des ronces, qui a été assez abondante. Donc des châtaigniers, ou il faudrait dire plutôt des miels de Cévennes, puisqu'ils ne sont pas forcément hyper forts et hyper typés. Et puis un petit peu de miel de montagne, mais pas énormément, parce qu'il y a eu beaucoup d'essaimages, de notre côté du Mont-Lozère, hein, je précise toujours.
Alors, j'y connais rien, c'est quoi le miel de montagne ?
Un miel toute fleur de prairie, plus doux. Oui, voilà. Et on a le droit d'appeler montagne dès lors qu'il est produit à plus de 1000 mètres d'altitude. Voilà. Et enfin, on a fait nous, personnellement, à la miellerie, mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'apiculteurs, on a fait une récolte correcte en bruyère calune, grâce au Mont-Lozère, où on a mis monoruche pendant l'été et qui nous a sauvé notre deuxième récolte. Après, ailleurs, en Lozère, il y a des coins qui ont bien donné, notamment l'Écosse, qui ont bénéficié des pluies de fin mai, début juin, et qui ont eu des floraisons sur le Saint-Foin et les prairies de Cosse qui ont été magnifiques. Et eux, ils ont fait des belles productions. Et je crois qu'en Margeride, ça a été moins faramineux, quoi. Enfin, moins favorable.
Voilà. Ça veut dire que vous partagez beaucoup entre vous vos expériences, la manière dont vous travaillez entre les apiculteurs, apicultrices.
Mon mari participe au syndicat apicole de Lozère où ils font un point des récoltes et également au GDS apicole pour les aspects sanitaires. Donc quand il y a ces réunions-là, on fait des points entre les différents secteurs de la Lozère parce que c'est très différent, à la fois en termes de flore et donc de quantité de nectar disponible pour les abeilles, quoi.
Et justement, petite dernière question, on passera juste après, pardon Natacha, mais c'est passionnant le miel. Enfin, les abeilles sont passionnantes, enfin, c'est un truc de fou. Justement, le plus gros problème auquel vous êtes confronté aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions pour y pallier ?
L'apiculture est devenue très technique. On a un petit parasite qui s'appelle le varroa. Il faut s'en occuper. Il faut surveiller ses ruches. On est passé d'un métier de cueillette où on posait une hausse, où on allait aux ruches en fin de saison et on prenait la récolte, à un métier entre guillemets d'élevage comme un autre, où il faut être présent auprès de ses ruches, les surveiller, surveiller les provisions, surveiller les maladies et s'en occuper. Voilà, c'est le défi de l'apiculture. Et tout le monde n'en a pas forcément pris la mesure, mais c'est à ce prix-là qu'on arrive à tenir ses colonies, à ne pas trop les perdre, et derrière à produire du miel pour en tirer un revenu, puisque c'est notre revenu principal.
Je voulais juste ajouter que donc, la miellerie de Vielvic avait été parmi les premiers à adopter la marque en Esprit Parc, hein, c'était en 2015, et que la miellerie récolte aussi de nombreuses médailles chaque année au concours des miels de France.
Oui, on se présente, on a des miels et on a des médailles. C'est grâce à la calune, parce que sur le Mont-Lozère, on ne se rend pas compte, mais on a la chance d'avoir des landes de calune qui sont vraiment importantes. Et on a souvent l'humidité suffisante, enfin nécessaire, pour que cette fleur-là donne du nectar. Et il n'y a pas tellement de régions en France où c'est le cas. Voilà. Après, pour revenir à la marque Esprit Parc, on a été effectivement dans les premiers à partir dans ce petit défi. La marque Esprit Parc, c'est une marque qui a été créée par tous les parcs nationaux de France. Le but, c'était d'identifier, de marquer à la fois des produits agricoles ou des activités ou des hébergements, comme par exemple les gîtes pour Ariel, elle en parlera tout à l'heure. Donc pour chaque type de produit, par exemple pour les produits agricoles, il y a un cahier des charges qui spécifie comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier de la marque. Et les principales contraintes ou les principales conditions qu'il faut remplir, c'est répondre à ce cahier des charges pour pouvoir revendiquer la marque. Le cahier des charges, il s'appuie aussi sur les valeurs du parc, donc tout ce qui est protection de l'environnement. Donc dans nos pratiques, on doit en tenir compte et travailler notre cheptel, nos transformations, les abords de nos exploitations pour répondre à ces enjeux de protection de l'environnement.
Vous avez fait partie du comité de gestion. Donc là,
et je fais partie du comité de gestion de la marque au niveau national, où on a la chance de siéger en tant que professionnel avec les responsables des parcs nationaux. Donc ça, c'est une chance parce qu'on peut du coup défendre, on va dire, et définir ce que nous, on attend de la marque. Pour moi, c'est vraiment un outil qui permet de défendre aussi les producteurs du territoire. On est là, on vit là. On a, comme le disait tout à l'heure Anne, on vit dans un milieu qui est magique, protégé. Et pour moi, la marque, ça permet de revendiquer ça. d'essayer de faire comprendre que nos produits ils sont issus d'un territoire fantastique, quoi.
Vous partagez la même réflexion, Arienta, donc la ferme du Pouget, donc qui est marquée à la fois pour le maraîchage et aussi pour des gîtes, donc depuis 2020. Et vous reprenez la relève, hein, tout doucement, c'est bien ça?
C'est bien ça, avec du coup Paul, mon conjoint, on reprend la relève du coup de mes beaux-parents. Et du coup, eux ont adhéré à la marque Esprit Parc d'abord sur le côté maraîchage. Et sur les gîtes, c'est arrivé du coup il y a deux ans à peu près. Parce que dans tous les cas, eux habitent là-bas, enfin eux ont une résidence là-bas depuis plus d'une vingtaine d'années, et se rendent compte que travailler dans tous les cas avec le parc national, c'est, enfin, il y a plein d'avantages et qu'on partage les mêmes valeurs. Et donc faire partie du coup de ce réseau et de la marque, pour nous c'était une évidence. Donc on y a adhéré au fur et à mesure, d'abord sur le côté ferme et ensuite gîte, parce que le cahier des charges n'est pas le même. On essaye de tendre au maximum travailler le plus responsable possible. Mais pour les gîtes, du coup, on a des vieilles maisons et donc c'est un peu plus compliqué des fois. Enfin voilà, ça peut être des passoires thermiques, même si on a mis quand même pas mal de choses en place pour, et on est en train de mettre de plus en plus de choses en place pour pas trop consommer d'énergie.
Alors concrètement, ça peut donner des idées. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour que...
Bah du coup déjà réhabiliter les lieux, avec les constructions actuelles. Et là on essaye surtout d'utiliser, par exemple pour le chauffage, beaucoup de bois. Donc on a un poêle qui chauffe du coup un des grands gîtes, et après là on voudrait justement voir pour mettre en place un autre poêle au lieu d'utiliser du coup du fioul. Donc ça diminuerait du coup forcément la consommation au fioul. Et voilà, on est en train de voir après, vu qu'on a la ferme aussi à côté, c'est plein de petites choses comme du compost, le tri des déchets, enfin c'est des choses qui font partie pour moi, de ma vie normale, mais pour d'autres gens, c'est pas la même chose. Donc voilà, après aussi, voilà, tout part directement, les eaux usées partent directement dans un épandage, donc après dans les terres. Donc on met à disposition du coup de nos clients et dans les gîtes des produits bio pour pas, enfin voilà, on les invite en tout cas à utiliser ces produits-là pour pas qu'ils utilisent eux leurs produits s'ils sont peut-être pas bio, et du coup faire attention à ce qui retourne directement dans la terre. Après, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on a mis en place, mais pour nous c'était en fait une évidence. Naturel. Et donc là j'ai pas d'autres idées à vous donner.
Et comment s'est passée la saison au niveau des réservations? Ça a bien marché cette année? Enfin, quel est le bilan?
Nous, on a bien fonctionné. Du coup, on a deux gîtes. On a un petit gîte de deux personnes. En fait, c'était une ancienne clède, donc un ancien séchoir à Châtaigne qui a été rénové pour l'été 2020, donc après le Covid. Et il y a de plus en plus de réservations. Nous, on a des réservations depuis début juin et jusqu'à la mi-octobre. Et sur le grand gîte, c'est un peu moins, parce que du coup, c'est un grand gîte qui peut aller jusqu'à 16 personnes, donc les gens s'y prennent quand même à l'avance pour faire leurs réservations. On n'a pas des réservations de dernière minute. Et du coup, là, au mois de juin, on n'avait pas trop de réserves, mais sinon, depuis début juillet jusqu'à... Enfin, tout le mois d'août, tout le mois d'été, enfin, tous les mois de juillet et août étaient pleins. Alors que j'ai entendu d'autres collègues sur le territoire, au mois de juillet, c'était un peu plus compliqué pour certains. Donc, je ne sais pas si c'est du coup l'esprit parc ou les choses qu'on met en place, mais en tout cas, le lieu plaît aussi.
Le lieu est un peu atypique aussi.
C'est ça. On est j'ai oublié de le préciser, mais du coup, on est à un hameau qui est situé à 3-4 km de Villefort et en zone cœur du coup du parc national. Et donc voilà, on est entouré de nature, enfin dans tous les cas en Lozère on est entouré de nature, mais le Pouget,
il est en altitude, il y a une belle
vue, on est à presque 800 d'altitude, Et voilà, c'est un mot qui vaut le détour. Même l'office de tourisme de Villefort conseille les gens de passer nous voir parce qu'on a aussi une petite boutique où on vend du coup nos produits. Et donc ça vaut le détour pour voir.
Et on mettra, auditeurs, auditrices, tous les liens de tous les invités qu'on a eus aujourd'hui. C'était passionnant. Comme d'hab avec le parc.
Je peux ajouter un petit mot, non ?
Avec plaisir, on arrive à la fin de l'émission. Mais...
Juste pour terminer en disant que ce soir, il y a un repas donc, qui est proposé, 100% local, justement confectionné à base des produits que l'on peut trouver au comptoir de la Régordane. Je ne sais pas s'il est encore possible de s'inscrire.
Oui, on clôturera les inscriptions à 5 heures.
Donc dépêchez-vous.
Donc allez vous inscrire auprès de l'office.
Merci beaucoup à tous pour ce plateau. Merci Ben.
Merci à toi Natacha, c'était
Catherine,
super.
Merci Catherine, merci Arienta.
Merci pour l'invitation.